Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Pierre-Yves Bournazel, député de Paris, élu du 18e arrondissement. Bonsoir.
Bonsoir Loïc Barrière.
Alors pour commencer, Pierre-Yves Bournazel, une question d'actualité. L'Allemagne a pris des décisions drastiques visant les personnes non vaccinées. Un nouveau conseil de défense sanitaire est prévu ce lundi en France, alors qu'un nouveau variant circule. C'est une situation anxiogène à l'approche des fêtes de fin d'année.
Ah, évidemment, la question de la crise sanitaire est anxiogène pour tous, comme citoyens, pour les décideurs également, puisque nous vivons une période exceptionnelle, difficile, douloureuse, puisque ce virus, d'abord, a arrêté nos économies au printemps 2020, notre vie quotidienne, a malheureusement tué. Nous avons progressivement pu retrouver le chemin entre guillemets du vie normale. Il y a des variants et beaucoup de scientifiques expliquent qu'il y a encore beaucoup d'inconnus sur les mutations de ce virus. Et donc il faut être très modeste face aux réalités de cette situation et de ces évolutions possibles. Être modeste, ça veut dire de ne pas faire des grandes déclarations parce qu'on ne gouverne pas à coups d'IACA et de faucon, et avec la volonté surtout de travailler main dans la main, décideurs politiques, scientifiques, pour prendre les meilleures décisions ou parfois les moins mauvaises, pour protéger notre santé, protéger notre vie économique et sociale et nos libertés. Et donc, moi, j'appelle chacun à trouver les voies de l'apaisement et du rassemblement pour traverser encore cette crise qui est là et qui n'a pas disparu de manière la plus protectrice possible.
Alors Pierre-Yves Bournazel, au début de la semaine, la maison commune destinée à soutenir la majorité présidentielle a été officiellement lancée. Ce mouvement s'appelle Ensemble citoyens, ça n'est pas un parti politique, c'est la réunion de toutes les formations qui soutiennent Emmanuel Macron.
Exactement, c'est une association et non un parti politique. L'association permet de la souplesse et de mettre ensemble des hommes, des femmes, des personnalités morales que sont les partis politiques, comme La République En Marche, comme Horizon, comme le Modem, comme Agir, comme Territoire de Progrès en commun, de nous mettre ensemble avec des objectifs communs, le soutien à l'action du président de la République Emmanuel Macron, une volonté ardente d'une nouvelle candidature pour le prochain quinquennat, travailler ensemble à un projet, à une vision d'avenir pour le pays, fort de l'action que nous avons menée depuis 5 ans dans des périodes difficiles et troublées, la volonté d'être ensemble, rassemblés, pour les futures échéances nationales et européennes, tout en gardant une liberté de ton et faisant vivre nos préférences et nos sensibilités. Et donc, je pense que cette association est la bienvenue. Au moment où on voit l'extrême droite se diviser avec 2 candidatures, où la droite LR est divisée entre plusieurs candidats avec des projets fort différent et divisé en 4 parties, quand on voit la gauche également éclatée, il est important que cette force centrale européenne, humaniste, qui porte des idées des modérés, venant aussi bien de la social-démocratie, de l'écologie politique, que de la droite modérée ou du centre, on s'agrège, on s'additionne. Je crois que c'est la bonne méthode de travail.
Le rôle de Ensemble citoyen sera d'accompagner non seulement la campagne du président Macron, mais j'imagine aussi la campagne des législatives qui arrivera après, avec peut-être l'émergence d'un groupe qui serait favorable aux idées d'Édouard Philippe.
Écoutez, chaque chose dans son temps. D'abord, nous avons une élection présidentielle. Nous souhaitons ardemment la candidature d'Emmanuel Macron. Je crois qu'il a toujours l'énergie de la jeunesse et en même temps la solidité de l'expérience de l'homme qui a traversé les crises. Car lorsqu'on regarde ce quinquennat, nous avons participé d'abord à la transformation du pays. Je voudrais donner Deux exemples. La réforme de l'école, le dédoublement des classes en zone d'éducation prioritaire renforcée et en zone d'éducation prioritaire, c'est-à-dire de donner plus à des enfants qui ont moins de capital social et culturel au départ, c'est une réforme d'une génération, c'est une réforme structurelle, structurante. On a eu le courage avec Emmanuel Macron de la mettre en œuvre, et aujourd'hui, je le vois dans mon arrondissement, le 18e, qui est concerné pour beaucoup d'écoles, et bien des enfants qui sont rentrés en 2017 en CP et qui sont aujourd'hui en CM2 ont des niveaux souvent équivalents à des enfants de milieux plus favorisés dans des arrondissements, par exemple, de l'ouest de Paris ou d'autres villes de France où des enfants réussissent à l'école. C'est très important, l'égalité des chances. Deuxième réforme, par exemple, importante, c'est que nous avons fait la réforme sur la formation professionnelle. Aujourd'hui, on est à plus de 500 000 apprentis en France. Il y a 5 ans, on aurait dit, il y aura dans quelques années 500 000 apprentis en France, personne ne nous aurait cru. Nous avons réussi, là aussi, à développer des filières professionnalisantes pour permettre à chacun de trouver un débouché. Et malgré les crises, aujourd'hui, le chômage recule, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Donc ça, c'est la transformation. Et puis en même temps, nous avons traversé des crises, et notamment une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent, extrêmement difficile, douloureuse. Je pose une question à ceux qui nous écoutent. Quel autre pays au monde a pris des décisions plus protectrices de l'emploi des salariés pour sauver les TPE, les PME, l'entreprise, l'emploi? Personne ne peut citer un autre pays au monde parce que les autres pays au monde citent la France comme exemple de solidité des politiques publiques pour nous protéger dans cette période de crise. Donc, quoi qu'il en coûte, il a été utile, ce qui ne veut pas dire que, évidemment, il n'y a pas de trou dans la raquette, qui n'a pas de difficultés, elles sont là comme n'importe quel pays au monde, mais l'essentiel a été préservé. Au moment où tout pouvait s'écrouler, nous avons tenu, et ça doit nous obliger à poursuivre et amplifier pour nous battre notamment sur des questions qui vont arriver, qui vont être les questions de soutien au pouvoir d'achat au moment où les prix de l'énergie augmentent, le soutien à l'école, que nous poursuivons des réformes, le soutien à l'emploi, et puis en même temps consolider notre politique régalienne sur les sujets de défense nationale, sur les sujets de sécurité notamment, où dans un monde qui change très vite, il faut être au rendez-vous.
Et pourtant, malgré ce bilan positif pour vous, Pierre-Yves Bournazel, un Français sur trois envisage de voter pour Marine Le Pen ou pour Éric Zemmour. Qu'est-ce que cela nous dit de la société française?
Je crois que tout ça vient de loin. Quand Emmanuel Macron est arrivé aux responsabilités en 2017, la coupe était pleine. Et il a hérité de cette situation. Et il a eu le courage de s'attaquer, comme je viens de le dire, à un certain nombre de réformes et de protéger les Français dans une crise historique et difficile. Mais les fractures économiques, les fractures sociales, les fractures communautaires, les fractures territoriales viennent de loin. Et tout ça ne se répare pas d'un coup de baguette magique. Je crois qu'il y a deux façons de faire de la politique. Soit comme les candidats que vous avez cités, mais ils ne sont pas les seuls, Zemmour et Le Pen, mais d'autres, malheureusement, suivent ce chemin, parfois de personnalités issues de partis dits de gouvernement, façon de faire la politique qui est de dénoncer, de monter les citoyens les uns contre les autres pour espérer en faire son miel l'électorat. Et puis il y a une autre façon de faire la politique qui me paraît meilleure, c'est le sens de l'intérêt général, c'est le sens de l'avenir du pays, des Françaises et des Français, c'est-à-dire de fixer un cap, de donner une vision et d'essayer de les rassembler autour d'un projet avec des propositions concrètes pour eux. Notre société est suffisamment divisée pour que les politiques n'exacerbent pas ces divisions. Nous avons besoin d'hommes et de femmes solides qui apaisent la société, qui rassemblent les citoyens au-delà de leur quartier, de leur origine, de leur génération, de leur couleur de peau, de leurs conditions sociales, et qui leur permettent de s'en sortir par eux-mêmes. Et c'est ce que nous avons commencé, c'est ce que nous devons poursuivre et amplifier. Je crois que la modération n'est pas la mollesse. Nous incarnons la modération, c'est-à-dire que nous ne tombons pas dans les populismes, dans les extrémismes, dans le nationalisme, dans la haine de l'autre. Nous devons garder ce cap-là, cette solidité-là. Mais la modération, ce n'est pas la mollesse. Nous devons être extrêmement énergiques dans les réformes que nous devons mener au service de ce projet que nous portons, projet européen, projet humaniste, et nous devons défendre. Nous l'avons fait sur l'école, j'ai cité quelques exemples tout à l'heure, nous l'avons fait sur l'égalité des chances. On pourrait parler du pouvoir d'achat, parce que c'est une question prioritaire. Nous allons faire beaucoup de propositions pour le prochain quinquennat, mais déjà, je voudrais rappeler que nous avons quand même réussi à supprimer la taxe d'habitation pour 80% des Français. En 2023, ce sera pour tous les Français. Nous avons baissé les cotisations sur les salaires, qui a permis d'augmenter le pouvoir d'achat de 21 millions de nos concitoyens. Nous avons revalorisé de 100 euros par mois l'allocation adulte handicapé. Nous avons revalorisé la prime d'activité. Nous avons mis en place le chèque énergie. Nous avons faire aussi la réforme 100% santé pour un remboursement de 100% des lunettes de vue, des aides auditives, des prothèses dentaires. Tout ça, ce sont des acquis, mais c'était pas acquis en 2017. Et donc, je veux dire par là qu'on peut transformer un pays, on peut améliorer la situation, ça prend du temps, mais il faut le faire, et on ne le fera que avec des hommes et des femmes qui ont la solidité des valeurs, des principes républicains, des fondamentaux démocratiques que d'autres veulent déconstruire. Et l'extrémisme, quel qu'il soit, nous conduit toujours à la division, au rejet de l'autre, en fonction de ce qu'il est, et conduit toujours le pays à l'abîme. Et donc il faut qu'il y ait des gens qui gardent le cap, et nous avons un devoir, c'est d'aller convaincre nos concitoyens. Le combat sera rude, il sera difficile, je ne le sous-estime pas, mais il faut avoir une foi très forte pour nos principes et nos fondamentaux républicains et démocratiques.
Pierre-Yves Bournazel, vous êtes député de Paris depuis bientôt 5 ans. J'aimerais qu'on évoque votre bilan, mais aussi vos propositions peut-être pour 2022 lors de la prochaine mandature. Vous êtes membre de la commission des affaires culturelles. Sur quel projet de loi vous êtes-vous particulièrement investi ?
Alors, avant de parler de la commission des affaires culturelles et d'éducation, j'ai fait voter la semaine dernière une proposition de loi avec mon collègue Christophe Blanchet à l'unanimité. Je le dis, c'est important parce que c'est rare que les textes soient votés à l'unanimité. J'ai pu convaincre des collègues de la gauche, du centre, de la droite de voter cette proposition de loi de lutte contre la contrefaçon. La contrefaçon qui est un phénomène puissant qui aujourd'hui détruit près de 40 000 emplois par an en France, qui s'attaque à nos savoir-faire, à la propriété industrielle et intellectuelle, qui favorise le financement du crime organisé, qui exploite les enfants à l'autre bout du monde. Et donc c'était un défi de trouver des nouvelles dispositions. On avait travaillé vraiment depuis plusieurs années sur ce sujet-là, et de faire voter à l'unanimité une loi qui va permettre de protéger davantage nos emplois, nos savoir-faire, notre industrie, et de lutter en même temps contre la contrefaçon qui produit du réchauffement climatique et l'exploitation d'enfants à l'autre bout du monde. Sur l'éducation de ma commission éducation et culture, je me suis beaucoup investi sur la réforme de l'école dont je parlais tout à l'heure, sur le dédoublement des classes pour donner plus aux enfants qui ont moins de capital social et culturel dans les quartiers de zones d'éducation prioritaire. Je suis beaucoup intervenu sur les questions culturelles, notamment pour soutenir le cinéma, le théâtre, le livre, nos bibliothèques, nos conservatoires, nos équipements culturels de proximité. Je me suis battu sur la nécessité de construire une politique pour faire contribuer les grandes plateformes à la diversité culturelle et au financement des œuvres. Je me suis battu sur le crédit d'impôt pour la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles qui participent de l'amélioration de notre attractivité auprès des productions étrangères. Lors de la crise, je me suis battu pour l'annulation pure et simple des charges pour toutes les entreprises culturelles directement touchées par la situation sanitaire. Je me suis battu pour une année blanche supplémentaire pour tous les intermittents, pour éviter que notre système culturel ne s'effondre, pour permettre la réouverture le plus vite possible des lieux culturels et des équipements culturels. Je me suis engagé sur les questions du sport dans cette commission. Notamment, on a pu construire un travail pour aider les associations sur le terrain. De la même façon que sur la question culturelle, je pense que le sport est une des réponses dans nos quartiers pour l'émancipation. Je me suis battu sur l'extension des ouvertures des bibliothèques, parce que je pense que la culture et la lecture, c'est pour tous et à tout moment. Je me suis battu sur le plan du dispositif « Un jeune, une solution ». Qui a apporté ses fruits sur l'entrée dans la vie professionnelle de nos jeunes. Et donc, dans cette commission, je me suis engagé aussi sur les questions du respect du pacte républicain, sur les questions d'émancipation, sur le soutien à celles et ceux qui portent dans les quartiers des politiques publiques de protection, permettre aussi l'apprentissage de la langue française, bref, d'essayer d'être dans une logique positive et avec des projets, des propositions de loi qui amènent à les citoyens à se sentir pleinement dans le pacte républicain et pleinement dans leur citoyenneté française. Ça me paraît important.
Alors, il y a deux aspects dans la vie d'un député. Il y a le travail que l'on fait à l'Assemblée qui concerne toute la France. Et puis, il y a aussi ce qu'on fait pour sa circonscription. De quelle manière avez-vous agi pour les habitants du 18e arrondissement?
Déjà, en étant un député de terrain, dans cette circonscription que j'aime et que j'habite, on me croise. Donc, on me parle facilement tous les jours. Donc, je rencontre déjà, j'allais dire, dans la rue, beaucoup de citoyens qui me parlent de leur sujet, ce qui me permet aussi d'entendre, d'apprendre, de comprendre, d'évoluer aussi sur certains sujets, parce qu'on n'a pas raison surtout à tout moment, et il faut savoir apprendre des autres et aussi faire mûrir sa propre réflexion pour prendre les meilleures décisions, parfois les moins mauvaises, dans des circonstances difficiles. J'ai une permanence dans la mairie du 18e. Voilà, donc je suis tout la semaine sur le terrain. Quand je suis pas à l'Assemblée nationale, eh bien, je suis à Montmartre, je suis à la porte de Clignancourt, je suis à Châteauroux, je suis à Mirault. Je suis sur le terrain, un élu de proximité, parce que je conçois mon mandat comme cela. Et ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai pu porter des sujets qui ont été travaillés avec des habitants, que je n'aurais pas vu moi-même. C'est en étant sur le terrain, à leur rencontre, que j'ai vu aussi des bonnes idées émerger et que j'ai pu porter au sein de l'Assemblée nationale et de l'hémicycle. Voilà, sur des problématiques. Par exemple, sur des problèmes d'occupation illégale du domaine public. J'ai travaillé à des propositions sur cette proposition de loi que j'ai fait voter à l'unanimité sur la lutte contre la contrefaçon. Mais depuis longtemps, sur les questions de tranquillité, j'avais l'idée de mettre dispositif de travaux d'intérêt général. Et donc, j'ai fait insérer dans la loi Dupont-Moretti le « tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies » pour avoir des réponses concrète aux problèmes d'incivilité. Nous avons fait voter une modification du statut de Paris pour que Paris se dote enfin d'une police municipale de proximité, de quartier. J'ai travaillé sur une expérimentation de lutte contre le bruit, avec la mise en place de radars sonores. Bon, bref, ont émergé du terrain beaucoup de propositions que j'ai pu relayer et porter, et ça, c'est un travail que j'ai pu réaliser grâce aux habitants.
Et vous serez candidat à nouveau aux législatives en 2022?
La question se pose pas encore aujourd'hui, mais à la fin d'un premier mandat, après beaucoup d'investissements, beaucoup de travail sur le terrain et à l'Assemblée nationale, sur des sujets très différents, c'est l'hypothèse la plus probable.
Merci Pierre-Yves Bournazel. Je rappelle que vous êtes député de Paris, élu du 18e arrondissement. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.